Il y a des géographies, des éloignements et des rapprochements. Le français est de ces liens qui, d'Abidjan à Port-au-Prince, nous font parler la même langue, ou presque, sans traduction, mais avec nuances et variations, avec des déplacements, des tremblements et des émotions nouvelles. En cette semaine de la langue française et de la francophonie, c'est avec gourmandise et bonheur que je reçois Dany Laferrière, grand écrivain s'il en est, publiant un très petit livre bref et incisif, académicien français et auteur haïtien. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour Pascal Paradou.
Et il faudrait rajouter, pour brouiller un peu plus les frontières, que vous avez une double nationalité haïtienne et canadienne. C'est confortable comme ça de vivre entre plusieurs identités ?
Oui, je pense qu'il faudra en ajouter d'autres. Chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut ajouter à la difficulté pour s'en sortir.
Et vous avez rajouté à cette difficulté en publiant ce livre savoureux en 2008 qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ».
Voilà, je suis aussi japonais.
Donc les choses sont claires. Est-ce que c'est ça l'universalité ?
Je ne sais pas, je ne crois pas non plus. Je crois qu'on peut atteindre l'universalité en restant dans sa chambre, dans une petite maison, n'importe où dans le monde, et dans toutes les langues et dans toutes les conditions. Quand on fouille les mythes, on voit que ça va avec des gestes premiers, des gestes primitifs. Souffrir, aimer quelqu'un à la passion, jusqu'à vouloir tuer. Et ça se retrouve chez Sophocle comme chez le voisin. Et moi, j'ai toujours cru que l'universalité, c'était ma grand-mère assise sur sa petite galerie à Petit Gouave et qui offre du café aux gens qui passent. Et pour avoir un peu de conversation et tout en sachant ce qui se passe dans sa ville.
Elle parlait quelle langue, votre grand-mère ?
Ah, créole. Elle parlait créole. Et les gens aussi, comme on parle, tout le monde parle créole en Haïti. On parle français dans une situation, soit à l'école ou dans des situations officielles, ou bien s'il y a des gens qui s'expriment toujours en français.
Vous parlez créole, bien évidemment, Dany Laferrière. Vous écrivez toute votre œuvre, a priori, en français, à moins que, depuis Paris, on ne connaisse que celle-ci.
Non, j'ai tout écrit en français.
Pour quelle raison ?
Parce que j'ai appris le français et que écrire précisément la langue écrite en Haïti, c'est le français. Maintenant, de plus en plus, depuis peut-être une trentaine ou une quarantaine d'années, le créole écrit est entré même dans les écoles. Et je vois sur Internet, beaucoup de gens s'expriment à l'écrit en créole. Mais de mon temps, ce n'était pas cela. Je vois ça avec beaucoup de plaisir. Et parce qu'il y a quelque chose de direct, et puis c'est une chose importante que le créole soit passé à l'écrit. C'était toujours, il y a même un dictionnaire français-créole, il y a une grammaire naturellement, sinon on n'aurait pas pu l'écrire, on n'aurait pas pu se comprendre, mais ce n'était pas, disons, courant. Et maintenant, c'est très courant, c'est tout à fait naturel.
Mais pour vous, l'haïtien que vous êtes, à l'origine, est-ce que le français a été perçu comme une langue de colon, comme un butin de guerre, ou comme le dit votre ami Alain Mabankou, le français n'appartient plus à la France ?
Moi, je lisais des livres, c'est-à-dire, sûrement en général, il y a des discours officiels, publics, des discours de salon, et ça dépend de qui parle, mais moi, tout simplement, j'ai lu les livres en français, je n'ai pas fait de rapport et entre les livres que je lisais et la colonisation, ou même la France. Et je trouvais les livres chez moi à Petit Gouave et je me demandais toujours d'où ils viennent, parce que les livres ont des jambes, ils marchent, et ils logent chez des gens qui les aiment et puis après un certain temps, ils s'en vont ailleurs. Donc j'ai jamais été dans ce genre de questionnement. Et est-ce que c'est un butin de guerre ? Est-ce que c'est quoi que ce soit ? Je lisais et puis je parlais le français. Je n'ai jamais fait un lien entre la France et la langue française. Et c'est la langue que je parle ou que j'écris, que j'aime, et comme le créole naturellement.
Point.
Point.
Sort dans quelques jours un livre coordonné par Leila Slimani pour la préouverture de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, qui s'intitule « Nos langues françaises ». Est-ce que ce pluriel vous convient ou il heurte l'académicien que vous êtes ?
Non, je ne suis pas... Je suis académicien quand je suis sous le dictionnaire, travaillant avec mes confrères. Et nos langues, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et c'est que les accents soient différents, qu'il y a de petites différences entre la façon d'écrire ou encore que le vocabulaire, il y a des mots qui... Je pense que ça se fait même dans tous les pays. Le nord et le sud d'Haïti n'ont pas le même accent sur le créole, ils n'ont pas tous les mêmes mots, enfin. Et c'est pour ça que je suis contre quand je vois un livre traduit de l'anglais et qu'on est traduit de l'américain, traduit de l'australien, traduit de l'anglais. L'anglais n'appartient pas à l'Angleterre, ça n'a rien à voir. C'est une langue commune, faite par tous ceux qui parlent anglais, traduit de l'anglais, parce que quand on fait des précisions comme cela, ça ne sert à rien. Quand je parle le français, je viens de le dire, ça n'a aucun rapport avec la France pour moi. Je parle français, qui est une langue dont la France est peut-être la grande centrale.
Mais il n'y a qu'une langue, donc, qu'un seul français, celui de l'Académie française.
Ah non, pas du tout.
Ah.
Il n'y a qu'une langue, qu'un seul français, celui qu'on parle. C'est-à-dire que si vous arrivez à vous faire comprendre avec des gens qui disent qu'ils parlent le français comme vous, eh bien vous parlez français. Et il n'y a pas d'académie dans cette histoire. L'académie, ça vient après, c'est un taux de contrôle. Et même, ce n'est pas cela. Et la seule chose qui compte, c'est des gens en train de se parler, de se comprendre dans une langue commune, qui ait des différences de musique, d'accent, de mots. Ça n'a aucune espèce de... Le français n'a rien à voir avec la France. C'est une langue.
L'académie, c'est donc la tour de contrôle qui a donné cet adjectif académique, mais vous n'êtes pas très académique, Dany Laferrière, et vous aimez surprendre, notamment aujourd'hui avec un roman de 60 pages qui succède à un très gros livre de 400, L'exil vaut le voyage. C'est votre liberté, comme ça, de jouer avec la distance, la forme littéraire ?
Vous avez parlé de gourmandise au début, on ne mange pas à chaque fois de la même manière. Des fois on est gourmand, on mange beaucoup, d'autres fois on pinaille et selon notre corps, ce que le corps veut expulser ou recevoir. Et on peut faire oui, comme en petit, comme on peut faire grand, mais ça n'a rien à voir avec la substance. Et je crois que c'est le spectre émotionnel qui compte dans un livre, ce n'est pas le nombre de pages.
Et c'est vrai que dans les restaurants 5 étoiles, ce sont souvent des très petites portions, mais qui sont particulièrement délicates.
Et les gens ne vont pas là pour manger non plus. Ils ont mangé chez eux avant d'aller dans un restaurant 5 étoiles. Ils sont là peut-être pour déguster.
Et comme en musique, il y a des symphonies et des chansons, donc des longs formats et des formats plus courts. L'enfant qui regarde est votre nouveau livre. On en parle après « Le bal est fini », titre de Leila Makkala, artiste haïtienne née aux États-Unis et chantant en anglais, en créole et en français.
Les paroles, scandale.
Une émission en francophonie sur RFI aujourd'hui avec Leïla Makkala, extrait de son nouvel album Breaking the Thermometer, et avec l'écrivain Dany Laferrière qui publie un court roman, L'enfant qui regarde, l'histoire d'une fascination dans un quartier populaire de Port-au-Prince entre un jeune homme, Manuel, et un mystérieux monsieur Gérard. Est-ce que c'est un souvenir, Dany Laferrière ?
Tout à fait, tout à fait. Mais ce n'est pas tout très exact. J'ai eu un professeur en Haïti, Gérard Canfort, et qui était quelqu'un d'assez mystérieux. Tous ceux qui l'ont eu comme professeur de littérature haïtienne, il avait une sorte de charme vénéneux, une élégance. C'était quelqu'un de si discret qu'il avait une émission à la radio et qui s'appelait, je ne sais pas, Chanson d'autrefois. Mais il ne disait jamais son nom. Pendant des années, personne ne savait qui animait cette émission. C'était son genre. Et c'était le genre de personnage. On a couru sur lui des quelques anecdotes, dont celle qu'il était tombé amoureux d'une jeune femme de la bourgeoisie et que ça ne s'est pas bien passé. Et je ne crois pas que ce soit vrai, mais c'est le genre de personne qui attirait des anecdotes de cette manière, parce qu'il a mené toute sa vie une vie mystérieuse et très élégante en même temps.
Ce souvenir est donc l'armature de ce récit, L'enfant qui regarde, parce que ce monsieur Gérard, ancien professeur qui a cessé d'enseigner, va prendre sous son aile ce petit gamin, Manuel. Donc en fait, c'est un récit d'apprentissage. Cet enfant lui doit beaucoup.
Les deux, parce qu'il vivait en grande solitude. Ce n'était pas forcément une solitude souhaitée. Et c'était qu'il était un homme en particulier, qu'il n'aimait pas la médiocrité et qu'il n'aimait pas la grossièreté. Et ce qu'il pouvait trouver dans ce gamin, c'était une sorte de pureté, d'intelligence, de curiosité. Et il avait l'impression qu'il pouvait faire avec une seule personne ce qu'il avait échoué avec toute une classe, tout un groupe. Il n'aimait pas l'ambiance générale de la culture haïtienne, qu'il trouvait un peu bornée, un peu fermée. D'ailleurs, son poète favori, c'est Baudelaire. Il n'aimait pas beaucoup la poésie haïtienne, sauf Edzer Villers, et la musique haïtienne, il n'écoutait pas. Les nouvelles en Haïti, politiques ou autres, ça ne l'intéressait pas. Et il y a des gens comme ça.
Il regardait ailleurs.
Il menait sa vie comme il l'entendait. Il ne sortait que de nuit, il rentrait à l'aube. Et il était. Et j'ai connu beaucoup de gens comme ça en Haïti, qui mènent une vie un peu un pas de côté et qui font les choses à leur manière.
Qui est le personnage de ce récit ? C'est Monsieur Gérard ou c'est Manuel ?
Ah non, c'est le garçon.
C'est le
garçon, c'est l'enfant qui regarde. Il regarde et c'est lui qui, tout ce qu'il dit est remis en cause par lui-même, parce qu'il est le maître du récit. Et il décrit sa mère, il vit avec sa mère, et le père n'est pas là. A-t-il disparu ? Est-il exilé ? Vit-il avec une autre femme ? On n'en sait rien. Et M. Gérard, c'est un homme qui l'a attiré parce qu'il est différent des autres. Donc il le décrit de loin. Il va le voir, bien sûr. Et ils auront une relation très, très forte, très intense, parce que M. Gérard voudrait bien lui passer, disons, sa culture.
Il dit, vous écrivez, que c'est un être abstrait. Monsieur Gérard, qui cherche un idéal, mais que c'est parfois dangereux d'avoir un idéal.
Oui, c'est un être abstrait. Il y a des gens, surtout dans des pays, des îles comme ça, où il y a beaucoup de choses extrêmement concrètes, comme les fruits tropicaux, comme la pluie brève et forte, comme la mer, comme le soleil. Tout est si évident, si vivant. Et d'où notre peinture en Haïti, d'où notre musique si sensuelle, si directe. Et là, voilà un être abstrait. Et qui ne fait pas dans cette gourmandise de la vie et qui a l'air de vouloir s'abstraire du monde.
Lors de notre dernière rencontre, Dany Laferrière, je vous avais demandé, je ne sais pas si vous en souvenez, quel était le plus beau mot de la langue française. Alors, pour ne pas faire de jaloux, vous aviez d'abord répondu tous, et puis après, vous avez choisi le mot adolescence. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que le mot de l'adolescence, et il s'agit bien de cela pour ce personnage Manu, l'enfant qui regarde, est-ce que c'est toujours le plus beau mot de la langue française et de votre œuvre ?
Je ne sais pas, peut-être maintenant je prendrai fainéantise, mais je ne serai pas trop loin et du hamac. Et, mais adolescence, c'est un très beau mot, c'est un très beau moment, un très fort et très dangereux, risqué moment dans la vie d'un être humain, où qu'il soit. Et en même temps, c'est tellement excitant pour un écrivain de voir se développer une nouvelle sensibilité. Ce sont des êtres qui ont une capacité d'absorption énorme et qui veulent aussi des caméléons, imiter d'ailleurs. Et ce garçon, Manuel, a dit « Je voudrais devenir Monsieur Gérard ». Et ça, je crois que les adolescents comprennent ça partout dans le monde. Et ce qui me touche dans un personnage d'adolescent, c'est qu'il est tout à fait universel. Parce que ses besoins sont très simples. Ils veulent un modèle, ils veulent pouvoir admirer. Et beaucoup plus même qu'aimer. Et ils veulent imiter. Et ce sont oui, c'est cela, ils aiment bien.
Vous avez aimé votre adolescence ?
Ah non, je n'ai pas eu conscience de mon adolescence. Un vrai adolescent n'en sait rien. Ceux qui en savent, un peu peut-être comme Manuel, qui ont une distance et ont déjà un pied dans un autre âge. Il y a des enfants d'ailleurs. Un des amis de M. Gérard dit « Gérard n'a pas connu ce qu'on appelle communément l'enfance, parce qu'il a toujours été comme ça ». Il y a des gens qui sont nés comme ça. On dirait bébé, ils sont comme ça. Monsieur Gérard, à l'âge de 5 ans, devrait sûrement s'appeler Monsieur Gérard. il est né comme ça, avec cette attitude, cette vision du monde, ce recul et cette distance, cette solitude, disons, complètement intégrée. Il y a des gens comme ça. Moi, je suis peut-être dans la vie, donc je me suis pas aperçu que j'étais adolescent.
L'adolescence, c'est le temps des questions, des découvertes. Et pour Manuel, le personnage de votre récit, Daniel Laferrière, c'est le temps des lectures grâce à M. Gérard. J'aimerais que vous nous lisiez un court extrait de votre roman. Manuel vient de se fâcher avec sa mère, mais la querelle a été passagère.
Après le souper, nous sommes sortis sur la galerie guetter les étoiles filantes. La crise était passée. Brusquement, j'ai l'impression d'entendre la voix basse de M. Gérard lisant son poème favori, « Le balcon » de Baudelaire. « Mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses, ô toi, tous mes plaisirs, ô toi, tous mes devoirs, tu te rappelleras la beauté des caresses, la douceur du foyer et le charme des soirs, mère des souvenirs, maîtresse des maîtresses. » C'était donc cela. C'est pour cela qu'il a refusé les avances de cette belle femme riche, comme a dit si grossièrement le professeur Désir. Monsieur Gérard n'est amoureux que d'une femme, sa mère.
Baudelaire et Wagner, voilà les passions de ce fameux Monsieur Gérard dans votre récit, Dany Laferrière, l'enfant qui regarde. J'imagine que vous ne choisissez pas ce poème et ce poète tout à fait par hasard.
Ah non, c'est une œuvre très brève, donc tout est là pour dire des choses. Monsieur Gérard, c'est un homme monstrueusement orgueilleux. Et je crois que Baudelaire était quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, tous les témoignages parlent de cela. Quant à Wagner, son amitié avec Nietzsche nous dit bien quel genre de surhomme il aurait aimé être, quelqu'un qui va... On parle de surhomme comme d'un homme abicepte, et ce n'est pas ça du tout, c'est quelqu'un qui voit par-dessus. Et l'homme, plus haut, quelque chose d'autre qu'un homme. On sent ça chez M. Gérard, le goût de regarder dans les nuées, d'être au-dessus de tout ça, de cette poussiéreuse réalité du pauvre prince.
Vous lisez Baudelaire, vous écoutez Wagner, vous, Dany Laferrière ?
Je lis Baudelaire, je n'écoute pas Wagner.
Qu'aimez-vous chez Baudelaire ?
Pour moi, c'est le poète. On parle beaucoup de Rimbaud en France. J'ai toujours été très indifférent face à la poésie de Rimbaud. Et quant à Baudelaire, oui, j'ai été tout de suite touché par cette langue, par cette musique. Il y a quelque chose, ce côté légèrement vénéneux, mais en même temps, il y a une si... Il y a quelque chose de tropical aussi chez Baudelaire. Comme on l'a vu là, d'ailleurs, dans un vers plus loin, il parlera d'autre chose. Et les soirs sur le balcon, il y a toujours quelque chose d'extrêmement langoureux. D'ailleurs, Baudelaire a passé une partie de sa vie avec une femme de la Caraïbe.
Ce n'est pas tout à fait un hasard. Monsieur Gérard lit aussi Villers. C'est le seul poète haïtien qui voit grâce à ses yeux, dites-vous. J'avoue tout ignorer de lui. Est-ce que ça vaut le coup ?
Villers est peut-être le poète le plus important d'Haïti. Ce n'est pas le plus aimé. Le plus aimé, c'est Oswald Durand. Mais il est, dans notre littérature, celui qui a rompu avec le côté, j'allais dire, l'anecdote tropicale. Il a dit, il ne suffit pas de planter le mot palmier au bout d'une méchante rime. Et pour faire de la poésie locale et pour faire de la bonne poésie. Et il a introduit dans la poésie haïtienne la notion de la mort, dans les 10 hommes noirs. Et le suicide, c'était des thèmes. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il l'aime, puisque dans ce livre, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi.
Oui, parce que c'est un récit d'apprentissage, mais d'apprentissage dans tous les sens. C'est-à-dire que cet adolescent va découvrir Baudelaire, la musique, mais aussi l'admiration, l'éloignement, la mort. Enfin voilà, c'est quand vous parlez du spectre des émotions, il s'agit bien de cela, Dany Laferrière, et ce fameux Monsieur Gérard a choisi Manuel parce que c'était lui, parce qu'il ne veut enseigner, dit-il, ni au futur banquier, ni au futur tueur à gages. Vous avez des mots très durs sur la société haïtienne, Dany Laferrière. Le plus terrible, ce n'est pas la dictature, c'est la société haïtienne, écrivez-vous.
C'est un médecin, je crois, qui dit cela, ou le professeur Désir, j'ai oublié. Vous savez, on ne peut pas mettre dans la bouche de l'auteur. Et c'est des choses que j'ai entendues. C'est des choses que j'ai entendues en Haïti. On ne peut pas croire que les Haïtiens réfléchissent tous de la même manière. Et si on a l'habitude de dire « la dictature nous a mis dans cette situation-là », il y a des gens qui pensent « non, c'est la société haïtienne qui a créé cette dictature ». Et c'est tout à fait, c'est-à-dire... Mais lui, il parlait dans un sens général, comme on aurait pu parler en France, de dire « c'est la société, vous savez, Rousseau, c'est la société qui corrompt l'individu et ce n'est pas, disons, la volonté de faire du mal d'un individu qui compte, c'est la société dans laquelle il vit ». Donc c'est plutôt dans ce sens-là.
Un peuple de mythomanes.
Ah mais là, je crois que oui. Et c'est normal, vous savez, c'est des insulaires. Et l'insularité, c'est une solitude augmentée. Et ces gens peuvent se lever un matin et trouver leur vie fastueuse. La mer, les montagnes, le ciel, toujours agréable. Et puis un autre matin, ils deviennent fous. Et parce que fou de solitude, fou de ne pas avoir beaucoup de voisins, fou de ne pas être continental. Et donc, c'est normal qu'ils s'inventent leur propre rite, surtout rituel et mythologie.
Mais ne faut-il pas être un peu mythomane pour raconter des histoires et devenir écrivain ?
Ben, tout écrivain est mythomane. Il faut avoir des mythes, il faut fabuler, il faut avoir cette capacité de ne pas accepter la réalité telle qu'elle voudrait qu'on l'accepte, mais plutôt telle qu'on veut la voir.
Sur Port-au-Prince et la société haïtienne, un jeune auteur que vous devez connaître, lauréat du prix RFI Théâtre et primo romancier avec Soleil à coudre, a lui aussi un regard très douloureux. Jean d'Amérique.
Dans ces conditions de vie, on peut très vite avoir l'impression qu'on n'a même plus le droit de rêver. Et ça, c'est hyper grave parce que le rêve, c'est peut-être le saut ultime qu'il reste à l'être humain pour exister. Je suis arrivé à Port-au-Prince à 11 ans, après avoir grandi à la campagne, et cette rencontre avec cette ville était assez brutale. C'est-à-dire, la ville efface beaucoup de choses chez nous parce que c'est très bouillonnant, c'est très énergique, et Port-au-Prince est une ville assez désaccordée, bruyante. Et moi, j'ai aussi tout de suite vécu dans des quartiers populaires où il y avait une violence mais immédiate que je côtoyais. Et c'est assez difficile de sortir de ce lieu-là parce qu'on n'a pas d'exemple qui nous amène vers la lumière, on va dire.
Comment trouver la lumière quand on vit dans des quartiers défavorisés de Port-au-Prince ? Dans votre récit, Daniela Ferrière, ce jeune Manuel rencontre le professeur, monsieur Gérard, et la contemplation joue un rôle très important. L'enfant qui regarde, ce n'est pas un hasard si vous avez choisi ce titre. Et il me semble que c'est un thème très fort dans votre œuvre. Il y a toujours des personnages qui rêvent, qui glandouillent. Alors, je ne sais pas si c'est un mot très académique, mais voilà, qui ne courent pas après la vie.
Oui, bien sûr. Et c'est un thème que je trouve universel. Et la personne qui regarde, l'enfant qui regarde est toujours le plus mélancolique. Et c'est le plus triste. Donc, c'est celui qui pense. Il voit le monde d'une manière. Et Jean d'Amérique, qui est un poète que je trouve très bien, et disait une chose tout à l'heure, mais il oublie de dire qu'il vient de la lumière, puisqu'il vient de la campagne, qu'il compare à Port-au-Prince. C'est la démarche de tout jeune gens qui arrivent dans une grande ville. Et les gens de province qui arrivent à Paris, du Québec qui arrivent à Montréal, de petits bleds du sud des États-Unis qui arrivent à New York, et de Rastignac qui arrivent à Paris, ils voient d'abord le fracas de ce monde avant de s'adapter et d'en devenir un écrivain comme il est en train de devenir d'ailleurs. C'est ce fracas qui lui apporte beaucoup. C'est à lui de mettre la lumière là où il ne la voit pas encore.
Mais il ne faut peut-être pas se jeter dans le fracas. Il y a une très très belle phrase dans votre livre, Daniela Ferrière. Un enfant qui regarde mûrit plus vite que celui qui n'arrête pas de courir. Voilà. Un éloge de la contemplation.
Ah non, toute mon œuvre est partie d'ailleurs de la contemplation, c'est-à-dire ma grand-mère assise sur la galerie et qui boit du café et regarde les gens qui passent, et dans Comment faire l'amour avec un accent fatigué, Bouba, le personnage qui lit le Coran, ne bouge pas de sa chambre. Il y a toujours un qui bouge et un qui est fixe. Et avec le temps, j'ai compris que c'était la même personne. C'est-à-dire, nous pouvons faire deux choses à la fois. Et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs chez les enfants. Ils sont des êtres qui comprennent qu'on peut faire deux choses à la fois.
Et vous avez écrit, je rajoute une ligne à votre biographie, « L'art presque perdu de ne rien faire ». C'était en 2011, c'était presque la sieste comme art de vivre en fait.
J'ai écrit aussi « Le charme des après-midi sans fin » ou « Le journal d'un écrivain en pyjama ». Il y a et « Le goût des jeunes filles », il y a, et dans toute mon œuvre, quelque chose. C'est pas de la mollesse, et c'est pas de la fainéantise, c'est quelque chose à laquelle on a le droit de rêver, c'est-à-dire de ne pas courir contre le mur et tête en avant pour se fracasser contre le mur. Et je crois que chaque fois qu'on court, on a l'impression d'être manipulé, et quand on regarde par la fenêtre, c'est nous-mêmes qui regardons.
Merci beaucoup, Daniela Ferrière. L'enfant qui regarde est édité chez Grasset. On peut lire ou relire un autre de vos livres réédités chez Zulma. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? De vive voix, à demain.